Frères et sœurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi de venir au travers de cette capsule vidéo, partager des moments avec vous, échanger avec vous au travers de la parole de Dieu. J'espère que vous passez quand même de bons moments dans ce temps un peu particulier de confinement, où c'est pas toujours évident, c'est vrai, mais de se retrouver déjà en famille, avec les enfants, avec le conjoint et surtout avec Dieu, se retrouver voilà, vraiment cœur à cœur avec le Seigneur. Et justement, je voudrais vous profiter de ce temps de confinement pour vous parler d'un sujet qui, à mon avis, est important. Et le titre de ma prédication est le suivant, « Dieu prend en compte ta douleur ». Et c'est vrai que quand on est dans le train-train quotidien, dans la vie active, on se lève tôt le matin, on part très tôt au boulot, on prend la voiture, on prend le RER, le métro, on est occupé à toute une journée de travail, on rentre à la maison, on est rincé, et puis on a le quotidien de la soirée, puis on va se coucher, puis c'est ça toute la semaine, et puis après on arrive le week-end, on a les courses le samedi, on a les paparazzi à faire, et puis le dimanche on a le culte. On n'est pas forcément toujours, comment dire, reposé pour écouter ce qui se passe en nous. Et dans ces temps de confinement, alors remontent à la surface parfois toutes ces douleurs du passé, ces moments difficiles que nous rencontrons, que nous vivons, peut-être ces situations qui ne sont pas encore résolues au plus profond de notre cœur. Et je voudrais te dire, au travers de ce message ce soir, Dieu prend en compte ta douleur. Et je voudrais introduire ces moments avec Luc au chapitre 4, verset 18, où nous est dit ceci, « Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Le besoin de voir sa douleur reconnue est quelque chose de capital, quelque chose d'important. Les hommes, les femmes ont besoin qu'on reconnaisse chez eux que nous avons mal, que nous avons été, je dirais, blessés, nous avons été atteints dans notre chair, dans notre corps, je dirais, au travers de situations, de différents problèmes de notre vie. Et celui qui souffre a besoin d'être pris en considération. Il y a tellement de souffrances de voir que parfois, on n'est pas écouté dans notre douleur. On n'est pas, je dirais, il n'y a pas d'attention face à notre souffrance. Et je voulais justement m'arrêter là-dessus ce soir, parce que la personne doit être reconnue avec sa douleur, doit être reconnue dans qui il est, mais j'irai même plus loin. Il faut que la personne qui a la douleur reconnaisse qu'elle a cette douleur. Pourquoi ? Parce que parfois, il est arrivé qu'on prenne des nouvelles d'une personne qui est dans la douleur, et puis cette personne te dit « Oh non, mais t'inquiète pas, Dieu pourvoira ou Dieu agira », et puis on tourne rapidement la page. Non, je pense que à partir du moment où on a affaire à des gens qui ont, je dirais, de l'empathie, qui ont peut-être un regard bienveillant, eh bien, il faut tenir compte de ça. Tenir compte que oui, il y a une douleur qui est là, elle me fait mal, je vais en parler, je vais en discuter de manière très simplement et vraiment échanger, peut-être même laisser la personne prier pour moi. J'ai un exemple dans la parole de Dieu par rapport à ça, c'est Anne. Anne qui a eu affaire à souffrir de quelque chose qui était au plus profond de son cœur. Vous savez que Anne, dans la parole de Dieu, à un moment donné, elle était stérile. Et là, elle s'est retrouvée confrontée à Élie, le prophète Élie, qui, lui, n'a pas compris la souffrance d'Anne. Et il est dit ceci dans Samuel, au chapitre 1er, verset 14, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Des paroles dures. Parole dure de la part d'un serviteur de Dieu, parole dure de la part d'un homme de Dieu qui a fait passer la douleur d'une femme à une attitude de femme pervertie. C'était quand même dur de la part, finalement, de cette femme de recevoir une parole comme cela. Et Anne répond de manière vraiment spirituelle, elle dit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai ni bu, j'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Samuel, chapitre 1er, verset 15. Même Gehazi, serviteur d'Élisée, était dans la même incapacité à comprendre la souffrance de Anne. Cette femme qui avait juste, comment dirais-je, avait juste un besoin de se sentir comprise, écoutée, qu'on ait de l'attention. Elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle souffrait du fait qu'elle ne pouvait pas devenir mère. Et en plus de cela, venait de cette souffrance, venait s'ajouter une autre souffrance. C'est l'incompréhension de ceux qui l'entouraient, et particulièrement de ce serviteur de Dieu, et puis peut-être parfois de chrétiens qui ne comprennent pas la douleur de telle ou telle personne. Et on le voit dans cet exemple, dans 2 Rois chapitre 4, verset 27, « Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds, et Gehazi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et me l'a point fait connaître. » C'est très intéressant cette dernière phrase où il dit « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. » Je pense qu'à un moment donné, nous avons besoin d'avoir du discernement, un discernement spirituel, divin, face à la souffrance d'hommes, de femmes, afin de ne pas, je dirais, ajouter souffrance sur souffrance, douleur sur douleur, de ne pas traiter une personne de ivre alors qu'elle est tout simplement dans une souffrance terrible, de ne pas pouvoir enfanter. Et je pense que nous avons vraiment besoin, autant d'un côté comme de l'autre, d'avoir du discernement, de l'écoute, afin de laisser Dieu nous parler, intervenir dans notre cœur. Et j'ai quelques exemples que je voudrais aborder avec vous par rapport à ça, où ce sont souvent des idées reçues. La première idée reçue, c'est la souffrance nous rapproche de Dieu. Oui, mais peut-être pas tout le temps, c'est pas automatique. Certaines personnes, justement, parfois même rejettent Dieu quand elles sont atteintes dans leur chair, dans leur corps, quand une souffrance vient les abattre. Et d'un autre côté, c'est pas non plus automatique, parce que certaines personnes sont déjà hyper connectées. Et l'exemple de Anne, qui était connectée avec son Père Céleste, elle cherchait juste la faveur de Dieu dans sa vie. Et puis on a l'exemple de Jésus, dans sa grande souffrance, il était connecté avec le Père Céleste. Et pourtant, on sait que Jésus a été un homme de Dieu au combien, je dirais, dans la douleur et dans la souffrance. Et on va le voir un petit peu plus tard. Une autre idée reçue que je voudrais vous partager avec vous, c'est la souffrance, pour certains, la souffrance est une punition, est un jugement. C'est toujours gênant de pouvoir parler comme ça, parce que qui nous sommes pour dire que ça vient d'un jugement de Dieu, que ça vient d'une punition divine? Est-ce qu'on a reçu une révélation de Dieu? Et trop de gens sont là à dire des choses trop facilement et à ajouter toutes sortes, finalement c'est un jugement, à apporter un jugement sur quelque chose qui n'en est pas. Et c'est l'exemple que je peux trouver avec Job. Est-ce que Job, alors que lui il a vécu la plus grande souffrance de sa vie avec sa femme, il a perdu 10 enfants, quand on sait qu'un couple, quand un couple perd un enfant, c'est déjà terrible, mais quand on en perd 10, on ne peut même pas imaginer. Il a perdu les enfants, ils ont perdu tous les deux les serviteurs, ils ont perdu tout leur cheptel, ils ont perdu tout leur bien. En fait, ils se sont retrouvés vraiment, je dirais, dans une situation catastrophique. Et Madame Job a vu son mari en train de dépérir de tumeur. Elle ne savait même pas s'il allait encore vivre, survivre. En fait, c'était un drame, je dirais, incroyable qu'ont pu vivre ce couple Job. Est-ce qu'ils étaient punis de Dieu? Est-ce qu'ils étaient dans le jugement de Dieu? Bien sûr que non. Troisième idée reçue que je voudrais aborder avec vous, c'est celui qui souffre a certainement péché. Et là, on entend parfois ça, et même je dirais trop souvent, on entend trop souvent des paroles comme cela qui viennent vraiment mettre des blessures sur des blessures. Je me rappelle de cet exemple, alors que mon épouse a eu un cancer de la moelle osseuse, alors qu'elle était en traitement, quelqu'un est venu la voir et puis il lui a dit, ben, tu sais que certainement tu as péché. Alors, Dieu merci, mon épouse est une femme solide, elle aime le Seigneur, elle aime Dieu, elle est connectée avec le divin, mais j'imagine, et ça l'a quand même un peu affectée, mais j'imagine ceux qui sont fragilisés par déjà l'annonce d'avoir un cancer, l'annonce d'avoir une maladie grave, en sachant pas si finalement, ben, dans l'année, elle va encore être de ce monde. Et de voir quelqu'un arriver, vous dire, mais tu as certainement péché. Et je pense qu'on a vraiment besoin de briser ces paroles qui sont là plus pour détruire que pour construire, qui sont là pour enfoncer au lieu d'élever. Et je pense que c'est là où on a vraiment besoin de discernement. Je pense qu'on a vraiment besoin de discernement spirituel, même pour encourager quelqu'un, afin d'avoir le mot juste, la parole de circonstance, juste à propos, pour restaurer, fortifier, encourager. C'est pour ça que Anne a pu dire à Élie, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Alors que Élie, le prophète, a pensé qu'elle avait péché en buvant trop de vin et puis en s'enivrant. Et cette femme a dit, mais ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Quatrième idée reçue, celui qui souffre manque de foi. J'ai un passage de la parole de Dieu, c'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, au verset 3, c'est Paul qui parle à cette église, et il dit ceci de très intéressant, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Dans la parole de Dieu, l'affliction, c'est tout ce qui concerne l'épreuve, la douleur, les difficultés, les moments difficiles, et dit sachant que l'affliction produit la persévérance. Et je pense que, et je suis même certain que bien souvent, c'est dans l'épreuve que nous avons la foi. Et que les douleurs que nous rencontrons, ce n'est pas un manque de foi. Et je voudrais juste poser la question comme ça, que dire des chrétiens persécutés dans le monde, ceux qui sont fouettés, mis en prison, tués pour leur foi. Bien au contraire, eux sont tués parce qu'ils ont énormément de foi, ils ont une foi selon le cœur de Dieu, parce que ce sont des hommes, des femmes remplis de foi, d'audace, d'autorité. Alors je pense que nous avons vraiment besoin de casser certaines idées reçues et de ne pas, je dirais, envoyer en pâture des paroles qui pourraient vraiment casser, briser, détruire là où on aurait pensé éventuellement encourager, eh ben c'est au contraire, on est là plutôt pour enfoncer, alors que Dieu vraiment donne de la sagesse afin de pouvoir aider ceux et celles qui sont dans la souffrance, qui sont dans le problème, et peut-être vous qui êtes dans cette souffrance-là et qui m'écoutez ce soir, eh ben vous devez vous dire, oui c'est vrai, moi j'ai parfois été blessé ou peut-être mal compris, il y a eu parfois même des malentendus face à ma souffrance, les gens ne m'ont pas forcément toujours compris. Et j'ai un exemple parfait dans la parole de Dieu, Jésus étant devenu homme de douleur et habitué à la souffrance, un homme de douleur. Alors s'il a été un homme de douleur, habitué à la souffrance, est-ce que parce qu'il manquait de foi? Est-ce qu'il était dans le péché? Est-ce que c'était un jugement de son Père? Est-ce que c'était pour se rapprocher de lui? Bien sûr que non. Alors je pense que dans tout ça, on peut tirer déjà un premier enseignement, c'est que Dieu nous donne de la sagesse, du discernement et vraiment beaucoup d'empathie pour comprendre l'autre et donner une parole selon le cœur de Dieu. Alléluia. Alors, je pense qu'on peut aller plus loin par rapport à ça. Et je voudrais dire qu'il y a un droit à la douleur avec un droit de ne pas être jugé. Un droit à la douleur. On a le droit d'avoir mal. Ne pas l'accepter, ça c'est une chose, mais on a le droit d'avoir mal. On a le droit de crier notre douleur. On a le droit de vraiment revendiquer que nous avons parfois des moments difficiles. Et Dieu prend en compte ta douleur. Et ça c'est quelque chose de très important. Il en tient même compte. Mais j'irai même beaucoup plus loin que cela. Il le met sur son compte. Et il met sur son compte ta douleur. Il vient la prendre pour pouvoir vraiment l'arracher de ta vie et transformer ton cœur de douleur en cœur de joie, de bénédiction, ton corps de douleur qui vient de transformer et le mettre et mettre la paix dans ton corps. Et j'ai un exemple dans Ésaïe au chapitre 53 verset 4, je vais vous le lire. Il dit: ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est-à-dire qu'il a pris cela à la croix du calvaire. Il a cloué en spectacle les puissances, les dominations, les autorités. Il a triomphé d'elles au travers de la croix. Et moi, je veux croire que Dieu veut faire cette œuvre extraordinaire dans ta vie et dans ton cœur. Alors, il te laisse le droit d'exprimer peut-être ta douleur, de crier même ta douleur. Et un tel point, c'est que il le dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre. Il ne vous a pas dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il te juge. Il n'est pas là en train de te dire, mais quand un malheureux crie, l'Éternel entend et te dit te taire. Non, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il vient l'aider. Il vient agir dans sa vie, il étend sa main de manière particulière. Dans Exode, au chapitre 3, verset 8, l'Éternel dit ceci, écoutez bien, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, alléluia, qui est en Égypte, j'ai entendu les cris, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Je connais ses douleurs, j'ai entendu les cris et le Seigneur entend les cris de ton cœur, même les cris silencieux, ces cris qui sont de l'intérieur que personne n'entend, que même parfois personne ne veut entendre, mais Dieu entend ce cri qui est là au plus profond de ton cœur. Je dirais aussi que la douleur est souvent, quelque chose que nous avons besoin de gérer. Et c'est pas toujours facile de gérer la douleur, parce que la douleur, elle est physique, elle est morale, elle est mentale, elle est psychologique, mais en tout cas, le tout, c'est que c'est une douleur qui est spirituelle. Et quand on est spirituel, tout est spirituel, nous avons besoin de remettre cela entre les mains de Dieu. Mais je vois un exemple dans la parole de Dieu, dans Job au chapitre 30, et au verset 30, il nous a parlé de cette douleur physique, où Job dit ceci: « Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. » On voit vraiment quelqu'un dans cette épreuve que nous avons parlé précédemment, que c'était quelqu'un qui était vraiment dans une douleur extrême. Et nous avons parfois des douleurs physiques qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas expliquer, mais qui sont réellement au plus profond de notre vie. Puis vous avez la douleur morale et affective. Et qui est là, qui nous touche. Et l'affect, c'est quoi? L'affectif, c'est tout simplement quand on a perdu un enfant, quand on a perdu un être cher, quand on a passé des moments difficiles, quand on est dans la douleur suite à un événement douloureux. Et je sais que beaucoup aujourd'hui, à cause de ce virus, sont affectés, sont blessés, sont détruits, sont dans la douleur d'avoir perdu un être cher. Et c'est un drame. Et on sent que vraiment, nous sommes parfois tellement, je dirais, dans une douleur qu'on ne peut pas l'expliquer, cette douleur morale et affective. Puis il y a la douleur psychologique qui est là, et pour rajouter à cette douleur, la douleur qui est la culpabilité. Et il y a combien d'hommes et de femmes qui peut-être vont se sentir coupables déjà d'avoir mal, déjà d'être dans la douleur, déjà peut-être d'être dans la maladie, coupables de ne pas avoir assez de foi, coupable de se retrouver dans une situation où le diable les accuse. Et nous avons vraiment besoin de briser cette culpabilité face à la douleur. Quelqu'un me disait récemment, me partageait le fait que une autre personne lui avait dit qu'il lui manquait de la foi face à sa maladie. Et il m'a partagé cela, et il était vraiment blessé. Vraiment blessé parce qu'il savait combien il aimait le Seigneur, et justement il sortait d'un temps de jeûne, de prière, de recherche de la face de Dieu. Il était vraiment rempli de la grâce de Dieu, mais Dieu ne lui avait pas encore accordé la guérison, et quelqu'un vient lui dire: mais il te manque la foi. Alors, c'est pour vous montrer franchement que des fois, on pourrait avoir tendance à culpabiliser par rapport à cela. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, brisez la culpabilité. Puis pour aller toujours plus loin dans cette pensée de la douleur, alors que Dieu prend en compte ta douleur, c'est la réaction. Parfois, les réactions sont surprenantes, venant de ceux qui sont dans la douleur. Déjà, bon, il y a le cri, on en a parlé, il peut y avoir un cri audible, un cri silencieux. Et j'ai un exemple d'Exode, chapitre 3, verset 7, l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris ». Bon, Dieu entend les cris, mais parfois, il peut y avoir des attitudes, des comportements, des pensées qui sont là et qu'on n'aurait jamais pensé en dehors de la douleur. Des paroles qui peuvent dépasser même notre entendement, notre pensée. Je donne l'exemple de Jonas. Au chapitre 4, verset 3, il dit « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Vous savez, entre nous, frères et sœurs, heureusement que Dieu ne répond pas à toutes nos prières. Parce que Jonas, là, il a demandé à ce que le Seigneur le reprenne. Et je sais au combien parfois c'est tellement douloureux que certains frères et sœurs demandent au Seigneur qu'il les reprenne. Oh non, on ne parle pas de suicide, on parle juste que Dieu les reprenne. Voilà, un arrêt cardiaque ou autre chose, peu importe, mais que Dieu les reprenne, ou dans son lit de sommeil, il ne se réveille plus le lendemain. Et je sais que des fois il y a des pensées qui peuvent passer, je dirais, dans votre cœur, et j'ai eu parfois des confidences comme ça de frères et sœurs dans des moments extrêmement difficile à avoir pensé et prié même que Dieu les reprenne. Et d'autres pensées qu'on a besoin de gérer, c'est le souvenir des douleurs du passé. Et là, je voudrais m'appuyer sur Lamentations, chapitre 3, verset 20. Il est dit « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Des douleurs du passé. C'est fini, parfois même, je dirais, ça a été cicatrisé, mais le fait d'en parler, il y a encore des douleurs, il y a les souvenirs qui restent encore vivants. Et je pense que nous avons vraiment besoin de guérir ça, guérir les douleurs du passé, briser cette souffrance des douleurs du passé. Vous avez vraiment besoin à ce que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles, même dans le domaine de la souffrance. Vous n'allez pas oublier votre souffrance du passé, mais vous en aurez plus mal. Et tant que vous aurez mal sur cette douleur, tant que vous allez appuyer sur la cicatrice, ça voudra dire que finalement, en dessous de la cicatrice, c'est encore infecté, il y a encore du pus, que vous avez besoin de retirer. Et Dieu veut nettoyer cette chose dans votre vie, afin que vous n'ayez plus à avoir mal de quelque chose qu'on pourrait vous parler et qui date de 10, 15, 20 ans. Je me rappelle de quelqu'un qui était vraiment en très grande souffrance d'avoir perdu un être cher. Et j'avais échangé avec cette personne et elle me dit oui, je l'ai perdu. Il s'est mis à pleurer. Et en fait, il avait perdu sa maman, et cela plus de 30 ans. En fait, il avait pas guéri de cette souffrance, de cette séparation. Et il gardait cette infection depuis une trentaine d'années. Et en fait, il avait tout simplement pas fait le deuil de la perte de sa maman. Et il y avait toutes sortes de confusions en lui, dans sa vie, dans son cœur, toutes sortes d'émotions qui se mêlaient avec les souffrances, et il avait besoin de guérir. Et Dieu merci, le Seigneur l'a complètement restauré, guéri, réhabilité, qualifié. Merci Seigneur. Et puis, un autre point que je voudrais voir par rapport à nos pensées, à nos attitudes, il y a toutes sortes de tentations qui peuvent venir quand nous sommes dans la douleur. Oui, il y a des tentations. Et je vais vous donner un exemple dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 18, il est dit « Car rien n'a été tenté, Jésus, lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » C'est quand même intéressant ce texte, parce que dans la douleur, nous sommes fragiles. Nous sommes fragilisés par la douleur. Et étant fragilisés par la douleur, on pourrait être davantage tenté à tomber dans un domaine ou dans un autre, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans notre comportement. On pourrait être tenté à être violent, à être agressif. On pourrait être tenté à boire pour peut-être oublier notre douleur. On pourrait être tenté à se droguer pour apaiser notre mal. On pourrait être tenté à tomber dans la merde, dans la révolte. On pourrait être même tenter de vraiment d'avoir des pensées de suicide. Et je pèse mes mots quand je dis ça. On peut avoir des pensées de suicide. Vous savez, quand le diable s'est retrouvé à confronter Jésus, alors qu'il était là suite au temps de 40 jours de jeûne, Jésus a été tenté. Et la parole de Dieu nous dit, alors que Jésus était sur les hauteurs, le diable dit, ben, jette-toi d'en haut de cette falaise et les anges viendront te porter. Vous voyez, derrière cela, c'est vrai qu'il y a vraiment une lutte spirituelle, mais le Seigneur savait très bien les jeux de l'adversaire, savait très bien combien le diable était malin. Et j'ai eu parfois des confidences de chrétiens qui m'ont dit, mais j'ai eu la pensée à un moment donné de me suicider, une pensée qui venait me dire, mais vas-y, jette-toi, tu verras, c'est pas douloureux, ça fait pas mal, mais au moins tu arrêteras et tu cesseras d'avoir mal et de gémir. Et on voit que le diable parfois veut vraiment confronter le cœur des frères et des sœurs. Il y a vraiment un combat spirituel dans la douleur. Puis il y a aussi le danger de l'isolement. Et nous avons vraiment besoin de briser ce danger. Dans le psaume 39, verset 2, il dit « Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive. » En fait, ça, on s'aperçoit que là, ça n'a rien changé à sa douleur. De rester muet, en silence, retiré dans notre grotte. Ah oui, il y aura des moments où on aura besoin de se retirer. Mais d'autres moments, on aura vraiment besoin de parler, d'échanger avec des personnes de confiance, des personnes avec qui on pourra vraiment être libéré, avoir une vulnérabilité, sachant qu'on ne sera pas jugé, accusé, sachant qu'on ne sera pas montré du doigt. Et je pense qu'on a vraiment besoin de remporter une victoire là-dessus. Puis le dernier point que je voudrais aborder avec vous, par rapport au fait que Dieu compte retirer ta douleur, que Dieu prend en compte ta douleur, je voudrais terminer parce que je pense qu'au niveau de la douleur, on pourrait parler des heures, mais je voudrais terminer en prenant un angle particulier par rapport à tout ça. C'est que je veux croire que Dieu veut guérir de notre douleur par le pardon. Je vais aborder ce sujet parce que je pense qu'il est important, il n'est pas toujours et forcément systématiquement abordé en rapport à la douleur, mais j'avais vraiment à cœur de vous le partager. Dans Genèse chapitre 41, verset 51, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et le Seigneur est capable de nous faire oublier toutes nos peines. Il est capable de faire un reset sur notre douleur, sur notre vie, sur notre souffrance. Certains ont été blessés par des offenses familiales, conjugales, parfois même offensés par des frères, des sœurs dans l'église, on en a parlé tout à l'heure. Et certains ont vraiment été blessés, ont gardé toutes sortes d'amertume, de mal-être par rapport à ça. Il y a toutes sortes de pensées qui ressassent dans leur esprit, dans leur cœur. Et vivre avec des rancunes, c'est comme être rongé par la lèpre. Ça nous abîme de l'intérieur. Ça nous ronge de l'intérieur. Il y a des gens qui sont rongés, des frères et sœurs, qui sont rongés non pas seulement par la douleur, mais par une double peine d'être rongé par toutes sortes d'amertumes. Et là, on ajoute la douleur à la douleur. On s'afflige une double peine dans notre vie. Et je crois que nous avons vraiment besoin de briser cela au nom de Jésus-Christ. Et bien des douleurs viennent des conflits qu'on n'en a pas réglés, qu'on n'a pas voulu régler. Alors, je voudrais vous partager une histoire qui est vraie, je vais vous la lire. On raconte l'histoire d'un roi qui punissait ainsi les meurtriers. Il dépouillait le coupable de ses vêtements ainsi que sa victime, puis il faisait attacher le corps mort au criminel, dos à dos, peau à peau. Au fur et à mesure que le corps commençait à se décomposer, au fil des heures et des jours, l'homme vivant tombait malade et finissait par en mourir. Bien que des gens portent ainsi des cadavres sur leur dos, et les résultats sont désastreux. Et parfois, les cadavres, ce sont toute l'amertume, toutes nos blessures, nos offenses, je dirais, qui sont là. La haine, l'animosité qu'il y a dans notre cœur face à toutes les paroles qui nous ont été dites, qui nous ont blessés dans notre famille, auprès de frères, sœurs, d'amis, de collègues de travail. Il y a parfois eu de véritables souffrances que le Seigneur veut veut vraiment briser au nom de Jésus. Mais en gardant toute cette haine, cette animosité, c'est comme un cadavre qu'on a sur notre dos à dos, et au fur et à mesure qu'il se décompose, eh ben, il vient pour nous détruire. Et comme je dis, bien des gens portent ainsi des cadavres sur leur dos et les résultats sont désastreux. Alors j'aimerais vous partager ce texte de Matthieu 5, 44 afin de confronter la haine par l'amour, de confronter la malédiction par la bénédiction. Et il dit, moi je vous dis, dit le Seigneur, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi ? Parce que c'est à vous que vous allez vous faire du bien. Eux se retrouveront face à Dieu, ce sera leur responsabilité. Mais vous, vous êtes affranchis, vous allez détacher finalement de votre dos ce poids qui vient vous détruire. Oui, c'est pour ça qu'il est dit, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et je terminerai en disant ceci, que le pardon n'est pas un sentiment, mais une disposition. Une disposition de cœur, c'est vouloir pardonner, c'est vouloir guérir. Vouloir pardonner, c'est vouloir remporter la victoire de Jésus sur notre vie. Le pardon n'est pas une option, c'est juste une décision que nous avons besoin de prendre. C'est juste saisir ce que Dieu veut pour notre vie, alléluia. C'est juste détacher ce qui n'est pas, je dirais, de Dieu, afin de pouvoir s'affranchir des œuvres des ténèbres. Et chaque fois que vous pardonnez, ben c'est vous qui gagnez. Chaque fois que je pardonne, c'est moi qui gagne. Chaque fois que je pardonne, j'accomplis la volonté du Père sur ma propre vie et je fais descendre la faveur de Dieu sur ma vie, sur mon cœur, sur mon âme, sur ma famille, sur mon foyer, et la bénédiction du Seigneur agit de manière extraordinaire. Alors le pardon, c'est pouvoir se souvenir du passé sans douleur. Et c'est ce que le Seigneur te propose, mon ami, en cette soirée, que vraiment il vienne enlever, briser, détruire cette douleur. Et le pardon, c'est pouvoir se souvenir du passé sans douleur. Alors je confirme que Dieu prend en compte ta douleur afin de changer le mal en bien, de transformer toute chose, afin que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur ta vie. J'aimerais maintenant prier afin que Dieu vous accorde à chacun d'entre vous et à toi, mon frère, ma sœur, vraiment une grâce particulière, une faveur particulière sur ta vie et sur ton cœur. Tu permets qu'on prie ensemble ? Seigneur, nous voulons te prier, nous voulons te remercier. Et je veux particulièrement, Seigneur, te prier pour mon frère, ma sœur qui est là, derrière son écran. Seigneur Jésus, tu connais ses souffrances, tu connais ses besoins, tu sais ses prières, tu as entendu ses prières, et encore celle de ce matin, Seigneur Jésus, qu'elle a pu élever vers toi. Seigneur, je veux te prier pour que ta faveur descende maintenant sur sa vie. Seigneur Jésus, que tu viennes, Seigneur, vraiment enlever cette douleur. Vraiment briser toute douleur du passé, des douleurs du présent, que tu viennes restaurer, réhabiliter, qualifier. Que vraiment, Seigneur, tu viennes, Seigneur Jésus, toucher ce frère, cette sœur, qui n'a pas encore fait le deuil, Seigneur Jésus, de son passé, le deuil de cet être cher. Seigneur, que vraiment tu viennes faire une œuvre de puissance, une œuvre de miracle. Que vraiment ta grâce vienne, Seigneur Jésus, toucher, Seigneur Jésus, ton enfant, maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que je veux croire que tu as, Seigneur, quelque chose de grand, de puissant, de merveilleux, de glorieux, de victorieux, d'extraordinaire. Que, Seigneur, tu veux mettre, Seigneur, dans le cœur de ton enfant, Seigneur Jésus, en cette soirée. Merci pour ta grâce. Merci pour la faveur divine, Seigneur, sur sa vie. Et permets que vraiment, Seigneur Jésus, puisse vraiment, Seigneur, voir ta puissance agir au travers, Seigneur, de la décision du pardon. Parce que je veux croire à la puissance du pardon, à l'efficacité du pardon. Je veux croire, Seigneur, à la délivrance au travers du pardon. Je veux croire vraiment une bénédiction, Seigneur Jésus, que tu viendras lui accorder au travers, Seigneur, du pardon. Seigneur, manifeste-toi maintenant. Parce que, Seigneur Jésus, si je pardonne, alors, Seigneur, Seigneur Jésus, je suis gagnant. C'est moi qui gagne. Seigneur, si mon frère, ma sœur pardonne, alors c'est elle qui gagne. Seigneur, touche, touche, Seigneur Jésus, ton enfant. Manifeste-toi dans sa vie et glorifie-toi dans son cœur. Dans le précieux nom de Jésus, à toi revient toute la gloire. Amen et amen. Alléluia. Voilà, que Dieu te bénisse. Et que vraiment le Seigneur mette une faveur particulière sur ta vie. Je veux croire que ce soit quelque chose de puissant s'est passé dans ta vie, mais que vraiment Dieu continue son œuvre au plus profond de ton cœur. Que Dieu te bénisse et bonne soirée.